RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, RMC Story pour, pas pour les GG, pour les grandes gueules, pour discuter, pour débattre. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à midi. Aujourd'hui dans les GG, Laura Barton-Martinez, elle est sophrologue. Bonjour Laura.
Hola todos.
Nous sommes avec Abel Boyer, l'éducateur. Bonjour mon cher Abel.
Salut les amis et salutations spéciales à Malika, une auditrice très fidèle des GG.
Abel qui est allée, vous l'avez sûrement vu si vous êtes fan de foot et abonné aux chaînes de Ligue 1. Ouais. Tu as fait le tour des stades, une partie des stades pour porter la bonne parole, l'éducation auprès des jeunes.
Exactement. La lutte contre les discriminations. Donc j'étais samedi au Groupama Stadium et dimanche au stade Jean Bouin pour expliquer les ateliers que l'on fait à l'année et notamment comment on se positionne dans la lutte contre le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme et le sexisme.
Un combat du quotidien pour l'ami Abel Boyer. On sera rejoint dans un instant par Jean-Loup Bonamy, notre professeur de philosophie. Il est à quelques encablures d'ici. Il a eu un petit problème de métro. Il est resté coincé dans la rame qui se trouve à 200 mètres des locaux d'RMC. Je vous conseille d'être à l'écoute des grandes gueules tout à l'heure parce qu'on aura un témoignage, celui de Stella Rocha. Elle a été prostituée dans le bois de Boulogne avec Yanis Eziadi. C'est un document à lire sur l'allée de la Reine Marguerite. C'est la grande traverse du bois de Boulogne où se trouve la prostitution des transsexuels. Alors Stella Rocha, c'est un parcours. Il est arrivé à 20 ans du Brésil, chassé par sa famille à cause de son homosexualité. Elle est devenue trans au bois de Boulogne et elle raconte ses années, plus de 10 ans au bois de Boulogne. Ce qu'elle y a vu et aujourd'hui elle s'en est sortie. Elle est devenue actrice. Stella Rocha, donc le témoignage de la brésilienne du bois de Boulogne, souvenir d'une brésilienne du bois de Boulogne. Le livre est aux éditions Le Cherche Midi et elle sera avec nous tout à l'heure à 11h. D'ici là, on aura reparlé du portable au volant de 4 départements qui à partir du 1er mai vont suspendre immédiatement le permis. Même si vous n'avez pas d'autres infractions, vous avez le portable au volant, suspension tout de suite du permis de 3 mois, du Rassemblement National qui se prétend être le parti des chefs d'entreprise. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais d'abord, on va parler immigration et de ce que préconise l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Gabriel Attal, on sait qu'il est potentiel candidat à l'élection présidentielle, vu une préférence du travail et comme au Canada, un permis à points pour obtenir la régularisation du travailleur. Est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce que vous partagez ce qu'il dit? On va écouter ce qu'il en disait, justement l'ancien Premier ministre était au micro de nos confrères d'Europe 1.
Sur la question migratoire, moi je souhaite qu'on assume une préférence travail. Il faut restreindre les autres motifs d'immigration, notamment le regroupement familial, au profit de l'immigration pour le travail. Moi, ce que je propose, c'est 1. Définir les besoins économiques, les besoins de notre économie en matière d'immigration via les partenaires sociaux. 2. On transfère ces besoins au Parlement et le Parlement vote des quotas d'immigration par secteur d'activité, peut-être même par métier. 3. On importe le système canadien de choix de l'immigration, on appelle le permis à points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui souhaite immigrer en France, qui souhaite avoir une régularisation en France, elle doit remplir un certain nombre de critères, ça lui donne des points. Si elle a le nombre de points suffisant, elle peut bénéficier d'une régularisation en France.
Préférence travail et permis à point pour pouvoir s'installer en France quand on est immigré. Je rappelle qu'aujourd'hui, la première des immigrations en France, ce sont les étudiants. Ensuite, voilà. C'est le regroupement familial. En 2025, le nombre de titres de séjour a augmenté de plus de 11%. 384 000 en France, ça fait 39 000 primo-délivrances de plus sur un an. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je salue Jean-Loup Bonamy qui vient d'arriver, notre professeur de philosophie. Bonjour mon cher Jean-Loup, on va donc parler immigration. De ce qu'a dit Gabriel Attal. Abel, d'accord avec la préférence travail de Gabriel Attal?
Alors, il y a deux choses, il y a la forme et le fond. Bon, l'élection présidentielle arrive, donc le sujet de l'immigration forcément va être posé sur la table.
Immigration, sécurité.
Exactement, et l'islam arrivera derrière. Hein. Donc voilà, c'est le triptyque un petit peu. Donc il a intérêt à montrer qu'il veut incarner, puisqu'il nous a dit qu'il sait à peu près comment diriger le pays. Maintenant, sur le fond, évidemment qu'il faut mener une réflexion sur la question et que la question de l'immigration de travail n'est pas quelque chose qui doit poser problème et aussi qui ne doit pas être posé de façon hystérique. Évidemment qu'il est préférable qu'un pays puisse choisir son immigration, ça c'est le béaba. Mais lorsqu'il parle du regroupement familial, il parle pas des réfugiés de guerre aussi, c'est-à-dire que dans sa communication, il choisit qui cibler. Et comme tu l'as dit, la première immigration, ce sont les étudiants. Ceux qui disent qu'il y a 400 à 500 000 personnes qui s'installent chaque année, ça ferait 2 millions de personnes tous les 4 ans, c'est faux parce que tout le monde ne reste pas en plus. Donc oui, pour une immigration de travail, mais attention à ne pas poser le sujet d'une manière qui va encore blesser on sait qui et qui va juste servir à une ambition présidentielle.
Le poser de manière franche, c'est pas non plus être blessé, dire les choses de manière précise, c'est pas atteindre à la dignité de la personne ni blesser.
Déjà, on n'est pas franc parce que le timing est choisi.
Sinon, on n'en parle pas,
oui,
Abel.
Oui, je suis d'accord avec toi. Mais le timing, il est choisi. Il le dit juste après avoir effectivement fait un papier comme quoi déjà il a présenté son couple et dit qu'il sait comment diriger le pays. Donc premier axe pour le lancement de campagne, on tape sur l'immigration. Donc ça
c'est
s'inscrit
pas taper
dans...
sur l'immigration.
C'est-à-dire on fonce droit sur le sujet. C'est pas dans le sens d'ouvrir un dossier.
Enfin, oui, Abel, mais... ça fait quand même plusieurs élections présidentielles. Le Rassemblement national ne cesse de monter. D'accord. Marine Le Pen est au deuxième tour, donc ça veut dire qu'il y a quand même un sujet immigration.
Mais j'ai pas dit que le sujet n'existe pas. Je suis pour qu'il existe, mais ne faisons pas les naïfs. Ils choisissent son timing en réalité.
Il y a une élection,
Gabriel Attal, pendant ces 5 dernières années, n'est pas l'élément qui s'est distingué comme étant un élément de la lutte anti-immigration en France.
Laura.
Non, mais je trouve que c'est bien que le sujet soit mis sur la table. On ne règle pas les mots d'un pays sans en dire les mots. Ça, c'est la première chose. Maintenant, moi, je trouve que malheureusement, on a changé d'immigration. C'est-à-dire qu'avant, on avait des familles entières qui venaient s'installer et pour grandir dans un pays, s'en accoutumer, etc. Maintenant, on voit bien que c'est plus exactement la même chose. Moi, je suis pour faciliter le droit au sol des personnes immigrées. Pour la simple et bonne raison que la plupart des personnes qui se retrouvent immigrées, pour en avoir fait les frais, pour avoir essayé d'en légaliser plusieurs, que je retrouvais dans des restaurants où j'ai travaillé, mon mari est dans le BTP et en fait on se rend compte que c'est impossible de leur faire des papiers pour qu'ils puissent travailler légalement, c'est une tannée. Donc on pourrait réfléchir à un visa de travail qui est donné sur le territoire français, parce qu'une fois qu'ils sont là, on dit toujours, bah oui mais ils ont qu'à pas être là, oui enfin... ils y sont. Donc autant en faire des actifs qui créent de la richesse au pays. Et ensuite, là où moi je suis intransigeante, c'est tu fais une connerie, tu sors. C'est-à-dire je te chope en train de voler, je te chope en train de faire quoi que ce soit, tu sors, tu payes pas tes impôts, tu délabres les endroits publics, tu sors. Ça c'est la première chose. Ensuite, pour tout ce qui est étudiant, moi ce que je trouve quand même triste, c'est qu'on n'arrive pas à les garder. Enfin, si on regarde, on ne peut pas se passer d'immigration. Quand on regarde dans les hôpitaux publics, je ne sais combien de médecins étrangers sont dans nos hôpitaux publics. On regarde dans les restaurants, je vous mets au défi de trouver un restaurant sans un seul immigré, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. On regarde chez les personnes qui font les femmes de ménage, tous les métiers que j'appelle les métiers indispensables mais que les gens méprisent, les éboueurs, les femmes de ménage, les caissiers, les caissières.
Sont issus de l'immigration.
Donc on ne peut pas se passer d'eux. En revanche, moi, ce que je trouverais judicieux, c'est de faire un petit peu comme ça se passe dans certains autres pays. Tu viens faire des études de médecine en France, tu as une obligation d'être dans un hôpital public pendant 5 ans. Tu viens faire tes études de droit, tu es obligé d'être greffier. On manque de greffier, on manque de juge, on manque d'avocat. Tu es obligé de rester à la justice française pendant X années, etc., etc., etc. Tu fais une école de commerce, tu dois travailler 5 ans sur le territoire. Rendons, en fait, malheureusement, l'immigration en France a perdu sa vaste communicante et son flux d'apport que l'un peut faire à l'autre. Dans tous les autres pays, quand tu y vas, tu dois aussi rendre au pays qui t'a donné. En France, maintenant, on donne, on ne fait que donner, et j'ai parfois l'impression que la France ne récupère pas. Donc, légalisons plus facilement les gens issus de l'immigration qui veulent travailler et qui travaillent parfois même plus que certains Français. Moi, j'ai reçu un monsieur qui s'est mis en larmes dans mes bras parce qu'il était SDF et je lui ai parlé. Et en fait, il m'explique, je n'arrive pas à trouver de travail parce que je n'ai pas de papier. Je fais du travail au black. Sauf qu'au final, le mec, une fois que j'ai bossé pendant une semaine pour lui, comme j'ai pas de papier, que je peux pas te porter plainte, je peux pas faire tout ça, eh ben, il me paye pas mal.
Donc toi, tu es pour faciliter ou pour durcir?
Non,
finalement.
Mais c'est-à-dire,
dans ton raisonnement, facilite ou durcit? Gabriel Attal, il veut durcir.
Oui, sauf que Gabriel Attal, encore une fois, il veut durcir. Ok, c'est super, mais les gens arriveront quand même sur le territoire parce qu'on fait partie de l'espace Schengen. Donc les gens arriveront. Ce qu'il faut, c'est durcir les règles une fois qu'on est en France.
Jean-Loup Bonamy.
Non, mais moi, tout ça me surprend un peu. Je suis surpris. Tu veux savoir pourquoi je suis surpris?
Oui.
Ah bon, tu veux savoir pourquoi?
Je veux que monsieur développe, là. Une belle introduction. Voilà. Je suis surpris. Voilà. Donc maintenant, développement, monsieur le professeur de philosophie.
Je suis surpris parce qu'on est un pays où il y a 6 millions de chômeurs.
Oui.
Donc je suis surpris qu'on ait besoin d'une immigration de travail alors que tout le monde n'est pas au travail. Voilà. Je suis surpris, les médecins, mais bon, il y a un numerus clausus qui fait dans les facs de médecine qui fait que qu'on a moins de médecins que ce qu'on pourrait avoir.
Il faut 10 ans, hein, pour former des médecins là aujourd'hui.
Bien d'accord, mais on pourrait s'y mettre dès maintenant, comme ça dans 10 ans,
il a été ouvert,
on pourrait éviter d'avoir encore cet éternel débat. Donc moi je suis un peu surpris dans un pays où les gens partent à la retraite à 62 ans, dans un pays dans lequel il y a 6 millions de chômeurs, dans un pays dans lequel il y a le numerus clausus en médecine et tout ce genre de choses, tout ça c'est des obstacles qu'on pourrait peut-être lever et on n'aurait pas besoin d'un énième débat sur l'immigration de travail. Je veux dire, si l'économie française était en surchauffe, si vraiment on carburait, s'il y avait des usines de partout, des chantiers de partout, si on était au plein emploi, éventuellement, on pourrait peut-être avoir ce débat sur l'immigration de travail. Mais j'ai cru comprendre, émission après émission, vu le témoignage de nos auditeurs, que c'était loin d'être le cas et que pour l'instant, on ne risquait pas la surchauffe. Donc, je ne vois pas pourquoi. C'est peut-être qu'il y a quelque chose de très mal pensé et de très mal organisé dans le système français si on a besoin encore d'une immigration de travail alors qu'on est très loin de la surchauffe.
Bah oui, mais regarde BTP, ce sont des secteurs qui ne peuvent pas se passer d'immigration, qui ne peuvent pas passer d'immigration. C'est ce qu'ils disent. Les services à la personne, on ne peut pas se passer d'immigration.
C'est avec le côté philosophique de Jean-Loup qui ne parle qu'au conditionnel, sauf que maintenant on a une réalité qui est là, c'est-à-dire que les Français, il y a des métiers qu'ils ne veulent pas faire. Point barre. Leur éducation a été faite. Maintenant, on peut effectivement redynamiser tous ces métiers-là pour les Français, mais ils veulent pas le faire. Donc moi je veux bien, mais c'est ton métier qui veut ça, c'est de toujours réfléchir et aller plus loin dans la réflexion de l'autre. Sauf qu'à un moment donné, on est quand même face à quelque chose qui est factuel. J'ai rarement vu un gamin qui a grandi à Auteuil-Neuilly-Passy qui se dit j'ai pas de boulot, c'est pas grave, je vais aller faire manœuvre dans le BTP. Pardon, mais je l'ai rarement vu.
Jean-Loup.
Non mais c'est curieux parce qu'il y a d'autres pays qui ont beaucoup moins d'immigration et ils ont pas ce problème. Quand même.
Lesquels?
Voilà, c'est quand même un peu curieux.
C'est quoi? C'est une question de salaire? C'est une question de volonté de travailler?
Moi, je pense que c'est une double question. C'est une question, de salaire trop bas, et deux, qu'il y a trop d'aide quand tu ne travailles pas. Et donc, du coup, le travail ne paie pas assez par rapport au non-travail. Voilà. Et donc on me dit regardez par exemple dans telle profession le BTP
c'est une réalité.
Oui voilà, le BTP c'est que des immigrés. OK, très bien. Donc je constate qu'il y a déjà des immigrés. Mais là on me dit en fait on prend prétexte du fait qu'il y a déjà des immigrés sous nos yeux pour nous dire donc il faut en faire venir de nouveaux. Mais c'est deux questions tout à fait différentes. Le fait que maintenant, à un instant T, ce soit occupé par des immigrés, OK, très bien, je constate, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, il faut en faire de rentrer de nouveaux qui ne sont pas encore là sur le territoire français.
Et on manque d'actifs. On manque d'actifs, on a une baisse de la natalité.
Et ensuite, il faudrait éventuellement, si jamais c'est indispensable l'immigration de travail, ce que je ne pense pas, mais imaginons que j'ai tort, on pourrait organiser une sorte de noria, c'est-à-dire tu viens 5 ans sans regroupement familial, tu travailles, tu gagnes un salaire qui est meilleur que ce que tu aurais dans ton pays, et après tu repars.
Et donc t'as aucun mélange des cultures.
Attends, on va continuer la discussion, mais j'ai Hicham qui veut intervenir, il est au 32-16, infirmier libéral. Bonjour Hicham.
Bonjour les GG, ça va? Bonjour.
Ouais, bienvenue Hicham. Est-ce qu'on doit avoir une préférence travail pour l'immigration comme le souhaite Gabriel Attal?
Je suis désolé, je ne vais pas aller dans le sens de votre débat. Je ne vais pas faire un hors-sujet, mais je vais faire un sujet qui va avec. Moi, c'est le sujet de l'immigration ne m'intéresse pas. Je vais vous donner une statistique et après je vais éluder ce débat-là. J'ai, chiffre INSEE, les préoccupations des Français. Numéro 1, criminalité, violence, 36%. Inflation, sécurité. 30%. Ouais. Impôts et taxes, 28%. Pauvreté et inégalité, 27%. Santé, 27%. Flux migratoire, 26%, qui arrive à la 6e position. Après, on a le changement climatique, 18%. Chômage, 11%. pourquoi, bon Dieu, pourquoi Gabriel Attal
merci, Hicham.
Sur ce sujet-là. C'est voilà. Ça qu'il faut...
Ah bah, attendez, si c'est la sixième préoccupation des Français, Hicham, ça veut dire que ça viendra dans le débat politique assez rapidement. Donc moi, je veux bien. Vous me dites à partir de combien de pourcents on ne traite pas dans le sujet.
Non, c'est pas ça la question. La question, c'est ciblé. Gabriel Attal, il s'est pas levé un matin, il s'est dit, tiens, je vais parler de l'immigration. Non, il a bien compris qu'il fallait siphonner les voix du RN. Et comment siphonner les voix du RN? Ah oui, on va taper sur l'immigration. La dernière fois que je suis passé, je sais plus, sur un sujet, on parlait des frères musulmans. C'est la chimère. Ça fait 30 ans qu'on nous parle d'immigration. Ça fait 30 ans qu'on nous parle. Et le triptyque qu'a dit Abel Boyer en introduction, c'est exactement ça. Élection présidentielle qui arrive. Immigration.
Mais oui, mais sécurité, c'est ce que je rappelle. Non, mais Hicham, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est... Non, mais Hicham. Non, mais Hicham, 10 secondes ouais. Aussi. Là, on voit bien, Hicham, là, à date, là, à 28 avril, on voit bien que le sujet des Français, c'est effectivement boucler la fin de mois voilà. Et faire son plein d'essence.
Pourquoi,
je suis d'accord avec vous.
Et sauf pourquoi Gabriel Attal.
On en parle tous les jours dans les GG.
Mais non, on en parle tous les jours. Nous, on vous écoute. Moi, je suis infirmier libéral.
L'essence, on en parle tous les jours.
Je passe ma journée sur RMC. Je vous écoute.
Ah, c'est bien.
Je vois bien qu'il y a des sujets, qui sont mis sur la table. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que les politiques, ils ont un agenda politique. Ils ont des cas.
Parce qu'il y a des élections.
Ils ont des pourcentages.
Mais Hicham, le Rassemblement national, qui aujourd'hui représente à l'élection présidentielle quasiment un électeur sur deux, ça doit vous interpeller. Donc, si vous réglez pas le problème à la fois l'immigration, la sécurité,
j'aimerais avoir une question à Hicham.
Ah ben comment c'est pas vrai.
C'est pas vrai, c'est pas parce que tu règles un problème qui est dit le problème de l'immigration que tu vas régler que la moitié des gens vont arrêter de voter pour le RN. C'est pas vrai. C'est
exactement.
Un ensemble de choses.
Les gens votent pour le RN parce que la droite et la gauche font n'importe quoi depuis 40 ans.
Parce qu'ils règlent pas le problème.
Mais c'est pas que le problème de l'immigration.
Le problème, il est pas forcément lié à l'immigration. Le problème, c'est un problème global. La police, la santé, l'éducation nationale, remplir le frigo, finir les fins de mois. Et en fait, les gens, ils en ont ras-le-bol. Vous croyez que les gens votent RN parce que on parle que d'immigration? Faut arrêter ce délire. Ça,
alors, Hicham.
Là où il se trompe, Gabriel Attal, c'est qu'il croit qu'il va arriver avec sa posture. On l'a vu à l'action. Il a été Premier ministre. Bon sang de bonsoir.
Les éphémère. Gens, hein.
Enfin, c'est pas longtemps. Il n'a pas eu le temps de faire grand chose, petit cœur.
Éphémère. Hicham a lancé la discussion dans la discussion.
Bah oui.
Il n'y a pas d'urgence
bien.
Sur l'immigration. Alors, un mot et puis on fait la pause, Jean-Loup.
Vas-y.
Moi, je constate quand même, c'est ce que je voudrais répondre à l'excellent Hicham, parce que Hicham écoute RMC tous les jours, donc il n'y a pas meilleur qu'Hicham. mais quand même, c'est que je constate que ce n'est pas propre à la France. Dans tous les pays, vous avez une préoccupation migratoire. Dans les autres pays européens. Aux États-Unis, il y a une inquiétude sur l'immigration. Dans les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, il y a une très forte inquiétude sur l'immigration qui vient d'Afrique subsaharienne. En Turquie, il y a un très gros rejet de l'immigration syrienne. En Iran, il y a un très gros rejet de l'immigration afghane. Ils ont, l'an dernier, expulsé plusieurs centaines de milliers d'Afghans. Au Pakistan, ils expulsent aussi des centaines de milliers d'Afghans. L'inquiétude sur l'immigration est une inquiétude qui n'est pas spécifiquement française, qui n'est pas spécifiquement occidentale, elle est universelle. Du Japon au Maroc, en passant par la France ou la Turquie, t'as une inquiétude sur le sujet.
On va continuer la discussion. Hicham, merci d'avoir été avec nous. Immigration, faut-il une préférence travail, comme le dit Gabriel Attal? 32-16 pour en discuter avec les GG. Dans un instant, Guillaume, il est du côté des Pyrénées-Atlantiques, il est dans le secteur de l'entreprise du nettoyage. Et il va livrer son témoignage. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules. Il est 9h20, vous êtes sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, il est 9h25, vous êtes avec les GG en direct à la radio, à la télé, Abel Boyer là, tout comme Laura Vartan-Martinez et Jean-Loup Bonamy, une sophrologue, un prof de philo, un éducateur. On parle de l'immigration, du dossier immigration avec ce qu'a dit Gabriel Attal qui souhaite que la France assume une préférence travail. Et comme au Canada, un permis à points pour obtenir la régularisation. Alors, Laura, elle bouillait de ce qu'avait dit Hicham tout à l'heure. Vas-y, puis ensuite on écoute Guillaume
au 32-16. Non, je voulais répondre à Hicham parce que Hicham a totalement raison sur le principe que c'est la sécurité. Malheureusement, il y a un fait qu'on ne peut pas enlever, c'est que les étrangers représentent à peu près 7% de la population française et ils sont représentés à hauteur à peu près de 26% de la population carcérale. Maintenant, que s'est dit ?
Donc ce que vous dire, c'est si on règle pas le problème d'immigration, on règle pas aussi le problème.
C'est que moi je trouve qu'encore une fois le problème ce n'est pas l'immigration, c'est comment elle est gérée dans le pays. On en revient toujours au même. Et donc ça ne sert à rien de taper sur l'immigration. Alors oui, Jean-Louis a raison, il y a des pays qui ne sont pas touchés comme la plupart des pays du Nord, mais en même temps, ils ont pas du tout le même schéma économique que peut avoir la France. On est très indécis.
Ouais, mais si tu veux, aujourd'hui en France, on est dans une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on se satisfait d'une immigration qui est à la fois illégale et légale. L'Espagne, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Là, ils ont dit, on en régularise 500 000.
Mélodie avait décidé d'en régulariser 500 000.
On se satisfait d'une immigration qui est dans l'entre-deux, qui fait tourner l'économie du pays. Et puis, comme c'est pas réglé, ça fait monter le rassemblement national.
Alain, ce qui est fatigant, le sujet sur l'immigration, évidemment qu'il faut l'avoir, mais c'est comment il est posé. Il est posé à des visées électorales et pas pour réellement
régler. Parce que c'est aux politiques de le régler, donc c'est normal.
Jamais. Et le problème,
Encore une fois, c'est populiste.
On affilie l'immigration à quoi ? L'immigration, c'est devenu un gros mot maintenant. Alors que l'immigration, c'est l'histoire de l'humanité. Et tout à l'heure, Jean-Loup, tu as fait encore le rapport avec les prestations sociales. Faut arrêter avec cette idée que les gens se disent, je viens en France parce qu'ils ont tellement...
J'ai pas dit que tu as dit ça.
J'ai dit que tu as fait le lien et je corrige. Effectivement, tu n'as pas dit ça. Et je sais que t'as pas un positionnement radical dessus.
Qu'un type qui fuit la guerre ou la misère vienne parce qu'il sait qu'en France, tu gagnes mieux ta vie, que tu as des prestations sociales en soi.
Non, mais les personnes veulent travailler.
Oui.
Mais quand tu peux pas avoir tes papiers, ou quand des fois tu es discriminé, faut voir comment les débats sont hystérisés. Et je vais redire un truc sur les prestations sociales. Tu as donné le pourcentage d'immigrés en France. La France, c'est un pays ultra majoritairement blanc. Il n'y a pas de grand remplacement. Et la majorité des gens qui touchent les prestations sociales, ce sont des personnes blanches, faut le répéter.
On a Guillaume qui veut intervenir dans les GG, Guillaume des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue. Une préférence travail pour l'immigration, comme le dit Gabriel Attal, oui ou non ?
Alors en fait, le sujet, il est que ça, c'est typiquement un sujet des grandes villes, des grandes métropoles, des villes, on va dire même moyennes.
Oui.
Parce qu'en campagne, je ne peux plus entendre le fait que les Français ne veulent plus faire certains métiers. En campagne, je vous garantis qu'ils le font tous.
À la campagne, ouais. Pourquoi ?
Ah ben oui. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas le choix. Demain, vous voulez simplement remettre les Français au travail. Aujourd'hui, dites à un maçon qui va prendre plus de 4 000 euros par mois, je vous garantis qu'il va y aller. Mais aujourd'hui, en fait, on prend tellement de charges, on prend tellement de problèmes, on prend tellement de charges patronales, de charges salariales, il y a une telle différence entre le...
Mais le travail est du précaire.
Bien sûr qu'ils n'y vont pas. Aujourd'hui, moi, je recrute des gens qui viennent me voir, qui font deux journées et qui me disent, mais en fait, je suis désolé Guillaume, mais je gagne autant à rester au chômage.
Mais il a complètement raison Guillaume. Et en fait, le problème,
l'immigration en elle-même, elle sera corrigée à partir du moment où on paye les gens.
Exactement. Voilà. Guillaume a totalement raison. On a précarisé le travail et on a dit aux Français. Et il y avait un député LR tout à l'heure à l'antenne d'Apolline. Enfin, c'était pas Apolline, mais
de Mathieu Béliard sur
l'émission d'Apolline le matin, qui disait que justement maintenant, ça c'est pas une question d'immigration ou pas, c'est que pour certains postes, si tu as des enfants à faire garder, ton trajet, etc., ça devient moins intéressant de travailler. Donc revalorisons le travail. Que le travail paye, qu'on arrête de précariser les emplois, et ça passe par, je suis désolé, ça va pas plaire à certains, de baisser les charges sur les entreprises pour qu'on puisse mieux payer nos salariés et embaucher, et ensuite le truc va se réguler tout seul. Je suis désolé, moi je comprends quelqu'un qui a été élevé en France où quand tu peux pas t'en sortir, on te donne des aides sociales, t'as pas envie d'aller faire la planche pour gagner un tout petit peu plus que le SMIC, mais ensuite te faire payer les impôts, garder tes gamins, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec...
Et aujourd'hui Guillaume,
il y a aussi un truc qui est insupportable, c'est d'entendre que l'immigration, c'est un gros mot. Stop. Tous les pays du monde régulent leur immigration. Tous. On est le seul qui décide de « non, il ne faut pas le faire ». Arrêtez. C'est normal. On fait attention à ce qui rentre et à ce qui sort. Et après, on ne peut pas. Il y a une immigration qui arrive légale et qui... celle-là, on la réduit, on fait. Et après, on a une immigration qui arrive, qui est illégale.
600 à 700 000 personnes. Alors, c'est compliqué de dire combien d'illégaux en France, parce que par définition, on ne peut pas les comptabiliser.
Non, je ne sais pas comment ils peuvent sortir le chiffre. On ne peut pas les compter. On va compter en fonction de l'approximatif.
C'était ce que disait Gérald Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur. Ça date de 2023 ou 2024. J'ai revérifié. C'est lors d'une commission au Sénat. Il disait il y a à peu près entre 600 et 900 000 personnes. Donc, allez, on va faire une fourchette à 700 000 à 800 000 personnes.
Mais ça, tu vois, ça, il faut que ça s'arrête.
Oui. Celle-là d'immigration, il faut aussi la régler. On peut pas accepter tout le monde. On a déjà du mal à s'en sortir, nous. Comment vous voulez qu'en fait les gens soient bien accueillis?
Mais si ce sont des actifs. Mais
justement, c'est pour ça qu'Gabriel Attal dit qu'il faut peut-être durcir les critères. Mais faire comme au Canada, un système de critères à points, Jean-Loup Bonamy.
Non, mais encore une fois, moi je suis un peu surpris parce que dans ces émissions, régulièrement, on parle aussi des problèmes de banlieue. Dans les banlieues, tu as des jeunes français. Qui sont nés en France, de nationalité française, alors peut-être dont les parents sont souvent issus de l'immigration, mais qui, eux, sont français. Et on parle des problèmes de chômage auxquels ils sont confrontés. Moi, je me souviens d'avoir entendu des témoignages dans le 93 ou le 94 où tu avais des quartiers à 40% de chômage des jeunes. Et il s'agit de jeunes français avec une carte d'identité française. Excuse-moi, moi je trouve ça un peu surprenant de faire venir des immigrés quand tu as des quartiers où tu as des jeunes de nationalité française où il y a 40% de chômage.
Ce que Bruno Retailleau appelle des Français de papier, d'ailleurs, alors qu'ils sont français.
Je remercie. Ben justement, s'ils sont français, aidons-les et concentrons-nous sur eux et donnons-leur du travail plutôt que de faire rentrer, des Bangladeshis.
Mais de toute façon, le débat, il faut l'avoir. Est-ce qu'il faut réduire la voilure? Oui, et il faut travailler en même temps sur de meilleures capacités d'accueil. En fait, c'est des deux côtés. Bien évidemment sûr. Qu'il faut pas accueillir tout le monde d'une façon totalement désordonnée. Ça, personne ne va dire ça. Mais c'est la manière dont on pose le débat.
Et quand Gabriel Attal dit quand il faut restreindre, il dit aujourd'hui, c'est notamment le regroupement familial. Mais voilà, le regroupement familial, il faut le freiner.
Alors, il mettre un terme, ce sera pas toujours possible, le papa malien avec ses quatre femmes qui fait venir toute la famille. C'est toujours cette idée un petit peu qui est derrière.
C'est vrai, je sais pas.
Est-ce que ça existe? Oui, mais c'est pas la caricature de tout le monde en réalité, d'accord? Moi, j'ai des membres de ma famille qui sont venus en France par le regroupement familial et qui n'ont jamais été concernés par ça. Parce que la réalité, après, c'est les conséquences sur le terrain.
Mais c'est ça.
Moi, je dis, il faut en parler. Je vais donner un exemple très simple, un exemple personnel. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée, ok? Jordan Bardella finit premier au premier tour. J'ai un membre de ma famille, en plus qui est français puisque né en France, un français noir, pour une petite manœuvre de queue de poisson sur la route, t'as une dame peut-être 70 ans qui sort de sa voiture, sale africain de merde, retourne chez toi, vous les noirs, vous prenez le RSA, là on est premier au premier tour, quand on sera à l'Élysée, on va tous vous dégager. Moi je parle des conséquences sur le terrain. Est-ce qu'il faut parler de l'immigration? Oui. Est-ce qu'il faut accueillir moins de monde? Oui. Est-ce qu'il faut aussi mieux accueillir les personnes et mieux s'occuper des personnes qui sont là? Oui. Et surtout quand Gabriel Attal il fait ça, faut siphonner les voix du Rassemblement National et il faut s'adresser à qui? Ce sont les retraités qui votent le plus. C'est cette part de l'électorat qui est plus sensible à la question de l'immigration. Donc en fait, on est dans un bal de faux cul encore une fois.
Quand on voit l'immigration d'avant, on avait une immigration familiale justement. On avait toute la famille qui arrivait sur le pays. Ben moi, je voyais moins de délinquance sexuelle, je voyais moins d'agressions sur les femmes. Il y avait quand même le côté justement les parents qui étaient accueillis dans le pays, qui disaient à leurs enfants. Et on a plein de gens, des chroniqueurs. Je pense par exemple à Joël qui explique à quel point ses parents lui ont inculqué le fait de respecter le pays d'accueil, etc. Maintenant, quand vous avez un mec qui arrive tout seul, mais il peut pas se construire, ça peut pas devenir un réel moteur pour la France, puisque de toute façon, on lui dit que c'est une sous-merde, on lui donne pas le droit au travail, on lui donne le droit à rien, ils vivent parqués. Enfin, je sais pas si vous passez, moi j'y passe parfois en venant au GG, c'est des bâtiments où ce ne sont que des hommes qui vivent dans une précarité. Évidemment que tu finis par tomber dans la délinquance et que tu détestes le pays qui est en face de toi.
Oui, mais qui a orchestré la ghettoisation? C'est ça aussi.
Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je dis, oui, tu dois réguler l'immigration, oui, tu dois faciliter le travail aux personnes issues de l'immigration, et ensuite tu règles tout le problème. C'est pas que stop immigration, stop ceci, stop cela. C'est
Jean-Loup, et puis ensuite on écoutera Julien en 32-16. Jean-Loup.
Je suis encore un peu sidéré de ce que j'entends. On me dit c'est normal qu'ils détestent le pays qui les accueille mal. Bah dans ce cas-là, ils n'ont qu'à pas venir. Ça me paraît aussi simple. S'ils trouvent qu'ils sont mal accueillis et si ils veulent détester ce pays, le plus simple me paraît de ne pas venir. Et ensuite on me dit du coup parce qu'il y a des problèmes de délinquance, il faut faire venir la femme et les enfants. Donc en plus d'accueillir un Afghan, on doit accueillir la femme de cet Afghan et les enfants de cet Afghan. Alors moi j'aimerais quand même rappeler...
Quand le Portugal et l'Espagne ont immigré de manière exponentielle en France, c'était quand même l'immigration qui était familière.
La culture afghane est légèrement différente de la culture ibérique.
Si tu durcis les lois en France pour résoudre de réels problèmes, si tu es un immigré et que tu as envie de vivre de manière afghane et que c'est quelque chose qui est impossible en France, tu ne viendras plus.
Moi j'aimerais citer le cas d'un ami. Cet ami s'appelle Doudou Crosbitume. connu pour ses exploits de cambriolage au Louvre. Quand vous regardez la biographie de Doudou Creusebitume, qui est un citoyen français né en France, vous êtes un peu surpris. C'est-à-dire que son père...
Dévoleur du Louvre.
Oui. Oui, voilà, le cambrioleur du Louvre. C'est-à-dire que son père est venu travailler en France. Et en fait, là, par regroupement familial, c'est-à-dire que pour recruter un actif, le père de Doudou Creusebitume, on est en fait, on a fait venir la femme et les enfants. C'est-à-dire que avec leur groupement familial, et celle-là, c'est ce que souligne Gabriel Attal, tu recrutes un actif et potentiellement tu te retrouves avec une famille complète qu'il va falloir loger, qu'il va falloir éduquer.
Mais non, si tu obliges la femme à travailler.
Mais je suis obligé la femme à travailler.
Bah oui,
c'est obligé.
Et bah si tu ne travailles pas, c'est retour case départ. Ah, point barre.
Bah, c'est un peu brutal du coup.
Ah, nous mieux, sommes avec Julien.
Le problème en amont.
Julien, bonjour.
Ouais, salut les GG.
Dans l'immobilier, bonjour. Julien, du côté des Bouches-du-Rhône, une préférence travail, comme le dit Gabriel Attal, qu'est-ce que vous en dites ?
Bah, c'est du recyclé, c'est l'immigration choisie de Sarkozy.
Exactement.
Il a 10 ans de retard, peut-être même 20. Quand il est au pouvoir, que ça soit Premier ministre ou député et son groupe au Parlement européen, il vote absolument contre toutes les mesures anti-immigrationnistes. Donc là, on voit bien que c'est une position électoraliste, simplement pour exister avant la présidentielle. Parce que c'est même pas pour tenter d'être qualifié. Pour le moment, il faut se faire une place entre Retailleau, Wauquiez, le maire de Caen. Donc il faut faire parler de lui. Et comme on n'en parle pas assez, il faut sortir des petites choses. Ça avait marché quand il était ministre de l'Éducation sur la Baïa. Il avait eu son petit moment de gloire. On ressort un petit peu d'immigration, un petit peu d'islam, un petit peu de plein de choses. Après, le débat, il existe vraiment. Moi, je suis la troisième génération de Français dans ma famille. On arrive d'un pays étranger et j'ai une culture italienne je conserve. Mes arrière-grands-parents, quand ils sont arrivés, ils n'ont jamais parlé italien. Du jour au lendemain, ils se sont arrêtés. Du premier jour où ils sont arrivés, ça a été difficile. Personne ne les a accueillis. Eh bien, ils ont travaillé. Leurs enfants.
Sauf que c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus dans tous les pays, c'est plus du communautarisme. C'est venez comme vous êtes, quoi. C'est au pays de s'adapter à vous. C'est plus ça, d'où les poches de communautarisme auxquelles on n'était pas habitué en France.
Les lois en
France.
Je vois qu'avec Gabriel Attal, il sera plus difficile de séjourner en France.
Très très bon. Bon jeu de mots. Merci Julien. C'est vous qui aurez conclu la discussion. Immigration, faut-il une préférence travail comme le suggère Gabriel Attal, oui ou non? Vous mettez oui quand même à 60, quasiment 70%. Allez, dans un instant, on s'en fout, pas, avec les maboules qui s'en prennent à l'Algérie. Ça a été la petite phrase d'Emmanuel Macron, le président de la République. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? On va commenter ça avec Abel Boyi, Laura Varton-Martinez, Jean-Loup Bonamy. Les 10h-20, les grandes gueules sont là en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Moins le quart, les grandes gueules sont là à la radio, RMC, à la télé, RMC Story. Aujourd'hui, Laura Varton-Martinez, Jean-Loup Bonamy et Abel Boyi. C'est l'heure de retrouver Anaïs Inès Sainz.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
GG, bonjour à tous. La nouvelle petite phrase d'Emmanuel Macron. Lors d'un échange en Ariège avec des médecins étrangers, le président a qualifié hier donc de maboule ce qui nous explique qu'il faut se fâcher avec l'Algérie. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Abel ?
On s'en fout pas.
Laura ?
On s'en fout pas.
Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Petite phrase glissée hors caméra hein, qui vise sans le nommer l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui prône lui la stratégie du bras de fer hein, dans la diplomatie franco-algérienne. Alors le chef de l'État s'en est expliqué un peu plus tard dans la journée. Écoutez.
Non, je ne vise personne. Non. Je suis dans une approche positive. Je dis qu'on a besoin de ces femmes et ces hommes qui servent notre pays. Je vise personne.
Bon, sauf que Bruno Retailleau l'a bien pris pour lui. Hein. Et il lui a répondu. Le président des LR parle d'un faux prétexte pour dissimuler les vrais problèmes. Il cite les OQTF, ceux que la France veut expulser, mais que l'Algérie refuse de reprendre, ou encore l'incarcération du journaliste Christophe Glaize. Jean-Loup, pourquoi tu t'en fous pas ?
Jean-Loup ?
Ah !
Vas-y.
Donc,
j'ai pas dit Jean-Loup.
Non, mais je ne m'en fous pas parce que. Alors, deux remarques.
On est maboule si on critique l'Algérie.
De quoi? Non, bah justement, je trouve qu'Emmanuel Macron a eu une politique de conciliation et de la main tendue, et que cette politique à Alger a été interprétée comme une politique de soumission qu'elle n'a absolument pas payée, qu'elle a été totalement contre-productive, et que la France enchaîne humiliation sur humiliation. Ah bah oui, mais on y a encore un journaliste français en prison.
Christophe Glaise.
Voilà, il y a toujours la question des OQTF. Donc, moi, je pense qu'il faut une politique extrêmement ferme. Par contre, je pense qu'il faut une politique de la plus grande fermeté, sans provocation. Voilà. Fermeté sur le fond, sur les mesures qui sont prises, et silence radio, pas de déclaration, pas de provocation, parce que sinon, la population algérienne le prend pour elle et fait bloc autour du pouvoir. Donc, je pense, pas de provocation, pas de coup de menton, et même pas de déclaration politique du no comment, par contre, extrême fermeté. Par exemple, sur les avoirs à Paris des dirigeants algériens, ce genre de choses.
Laura ?
Oui, bah, je vais être d'accord avec Jean-Loup pour une fois, ça c'est génial.
Ça te fait mal, on dirait.
Ouais, non, faut pas exagérer. Non,
je bombarderai pas l'Iran pour autant.
Hein. J'estime que ce qui fait le plus mal au monde en ce moment, c'est la diplomatie étrangère qui est mise aux yeux et aux vues de tous. Et c'est le problème, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être dites. Et encore une fois, je pense que Monsieur Retailleau ne s'en prenait pas aux Algériens, mais s'en prenait aux dirigeants algériens, ce qui est quand même deux choses qui sont complètement différentes. Effectivement, avec les dirigeants actuels algériens, il y a des choses compliquées à gérer, mais encore une fois, ce sont des choses à gérer entre dirigeants. Et de le mettre sur la place publique crée forcément, ça crée forcément des incompréhensions de la part des populations, des peuples, etc. Évidemment, qu'on ne peut pas se passer. Il y a une alliance qui est faite avec l'Algérie depuis des années. On ne peut pas faire sans l'Algérie. C'est un fait. C'est comme ça. Notre histoire est tellement intrinsèquement liée qu'il n'est plus possible de faire marche arrière. En revanche, la France doit quand même s'imposer de manière ferme, diplomatiquement, sur des choses qui ne vont pas aussi du tout avec l'Algérie.
Voilà, on peut quand même essayer d'avoir un langage de fermeté. Ça fait 60 ans et arrêter que la France soit instrumentalisée par le pouvoir algérien.
La politique du paillasson,
je pense que Emmanuel Macron, une fois de plus,
moi, je pense que
il est à côté de la plaque. C'est pas une politique de maboule. On va pas se fâcher avec l'Algérie. C'est l'Algérie qui est déjà fâchée avec nous, si tu veux.
Enfin, donc, simplement Macron, il est méprisant avec toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui.
Ça, ça ne se fait pas. Et essayer de faire son possible pour libérer Christophe Glaise, Kamel Daoud, ça a pris du temps. Pardon, Kamel Daoud, Boualem Sansal, ça a pris du temps. Rappelons Kamel Daoud, il vient d'être aussi condamné là par contumace avec une espèce de loi de censure algérienne qui est d'un autre temps. Donc, Monsieur le Président de la République, essayez de faire le nécessaire, faire ce qu'il faut pour qu'on arrête effectivement de se faire marcher dessus, quoi. C'est tout.
Oui, mais moi je pense qu'il y a deux choses. Ce que tu dis, c'est vrai, mais ça doit se faire. La diplomatie, c'est ce qui incarne la grandeur du politique et la manière dont Bruno Retailleau, il a étalé ça sur la place publique. Pourquoi ? Pour remettre encore sur la place le sujet de l'immigration des Algériens avec le fantôme de l'islam derrière. C'est-à-dire, on n'est pas dupe. Au bout d'un moment, on doit arrêter de faire semblant de ne pas comprendre les choses. Aujourd'hui, Bruno Retailleau a montré qu'il n'est pas un homme d'État. Parce que cette histoire diplomatique qui peut être très importante doit se faire dans le secret des bureaux politiques. Il y a des personnes qui sont incarcérées. Il peut y avoir un problème avec les QTF, oui, mais c'est pas en étalant ça, c'est pas en hystérisant le débat politique que ça va faire, améliorer les choses. Parce que d'un côté, les Algériens se sentent insultés, et de l'autre côté, ça enflamme encore le débat sur l'immigration et c'est pas une bonne chose.
On enchaîne, Anaïs.
GG, c'était un vote très scruté hier soir. Le rapport sur l'audiovisuel public a donc été adopté de justesse à l'Assemblée après plus de 4 heures de débat. Il sera donc bien publié la semaine prochaine. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Abel?
Moi, je m'en fous, père.
Laura?
Je ne m'en fous pas.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Rapport écrit par le député UDR, hein, Charles Alonc, la 12 voix contre 10, adopté donc, après donc 6 mois d'audition très très mouvementée et des polémiques à répétition.
Du côté de la gauche, on a dit que c'était un rapport, une vraie daube. Sacha Houlier dit que ce rapport est une honte et qu'il est le sceau de l'Assemblée nationale. Donc à partir de lundi prochain, on pourra savoir ce qu'il y a dedans. C'est surtout au rapporteur, hein, Charles Alonc, effectivement, qu'il s'en prenne. Laura?
Oui, bah alors que la gauche ne soit vent debout contre cette publication, j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal. On s'attaque quand même à leurs médias. Moi, je voudrais souligner quand même, je trouve, l'hypocrisie de certains députés du bloc central pour l'abstention. C'est-à-dire, il faut que ce soit publié, parce que sinon ce serait une honte démocratique, mais on va voter l'abstention. En fait, c'est quoi? C'est on doit carter une partie de la gauche et les socialistes dans notre poche, parce que c'est, on l'a vu ces dernières années, c'est quand même eux qui font la pluie et le beau temps à l'Assemblée nationale. Mais en même temps, pour dégommer cette gauche qui peut nous nuire aux prochaines élections, il faut que ce soit publié. Moi, c'est ça que je retiens de ce vote. Et j'étais sûr, honnêtement, que le rapport de Monsieur Alloncle allait être voté, mais l'abstention, je trouve que ça devrait être interdit, l'abstention.
Jean-Loup ?
Non, mais au 18e siècle, il y avait quelqu'un qui s'appelle un écrivain, Chamfort, qui disait en France, on persécute ceux qui sonnent le tocsin. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quelqu'un, Charles Alloncle, qui quand même se pose des questions assez légitimes sur la manière dont on utilise l'argent des Français, 4 milliards d'euros, sur des questions de gaspillage et de gabegie, hein, les suites d'hôtel à plusieurs milliers d'euros, les notes de taxi faramineuses, qui se posent aussi des questions sur les conflits d'intérêts. Pourquoi est-ce que des chaînes de télévision qui emploient de nombreux salariés ont besoin en plus d'externaliser, de déléguer à prix d'or à des boîtes de production extérieures 80% de leurs émissions? Enfin bref, ils se posent des questions assez légitimes. Mais du coup, ça devient lui le problème, ça devient lui la cible. Je suis un peu, là encore, tu vois, je suis un peu surpris. On ferait mieux de tous se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, pour qu'il y ait moins de gaspillage d'argent public, pour que le service public de l'audiovisuel fonctionne mieux.
4 milliards quand même.
Ouais, 4 milliards. Et on compare ça souvent à la BBC anglaise, mais la BBC anglaise, en fait, 40% de ses recettes, c'est la publicité quand même. Alors que France Télévisions, c'est seulement 15% des recettes, la publicité.
Il faut quand même souligner que M. Alloncle était contre la fermeture du service public.
Voilà, donc il n'est pas du tout pour la privatisation. Voilà. Il dit, moi, je veux sauver un service public qui est l'audiovisuel qui est à moitié en faillite. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ses préconisations. Mais apparemment, non, on n'a même pas le droit de signaler qu'il y a un problème.
Ah, belle.
Il s'en fout, on enchaîne.
Ah bon ?
On finit.
Et puis, les GG, le marché du livre neuf souffre, hein, et c'est le groupe Gibert qui en fait les frais. Ce poids lourd de la librairie indépendante en France demande son placement redressement judiciaire. Présent dans 12 villes avec 16 boutiques, l'enseigne fondée en 1886 joue donc sa survie. On s'en fout ou pas, Laura ?
Non, on s'en fout pas.
Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Abel ?
On s'en fout pas.
Abel.
Bah, c'est un fleuron de la culture française. C'est ce qui permettait à nombre de jeunes, à nombre d'étudiants d'avoir accès aux livres, en fait.
Livre d'occasion.
Avec ce quartier mythique à Saint-Michel, justement, où je pense qu'on est tous allés. Et c'est vrai que c'est une immense tristesse de voir ça. Et quelque part, même si c'est un problème économique, mais c'est encore un signe, j'ai envie de dire, sans être superstitieux, du déclin français, en fait. Parce que jamais je n'aurais pu imaginer, lorsque j'étais étudiant, qu'une enseigne comme celle-ci puisse un jour être sous la menace d'une fermeture définitive.
Laura ?
Ouais, moi j'ai acheté tous mes livres d'école.
Tu les achètes ailleurs maintenant.
Chez Gibert Jeune. Oui, mais ça veut dire quoi ? Malheureusement, c'est que maintenant, il faut pas les librairies. Non, je suis désolée. La librairie, il n'y a qu'un seul moyen de s'élever quand on n'a pas les moyens.
Oui, t'es pas obligé quand de acheter tous tes bouquins d'occasion chez Gibert. C'est une ancienne qui disparaît,
si son redressement judiciaire, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, et je suis désolée. La seule manière de t'élever intellectuellement, de voyager, de t'ouvrir l'esprit quand t'as pas les moyens de traverser le monde, c'est les livres. On doit soutenir.
Et le contact physique avec le papier.
On est obligé.
Tu les achètes ailleurs. Jean-Loup, 20 secondes.
Oui, non, moi j'ai de très nombreux souvenirs chez Gibert, et c'est triste à la fois pour des raisons culturelles et pour l'identité du quartier. Ou d'ailleurs, beaucoup de librairies ont déjà fermé, ont été remplacées par d'atroces boutiques de fringues.
Mais tes livres, tu peux les acheter en supermarché aussi.
Mais on a compris, Alain.
T'as pas le même conseil. Et libraire.
Allez, dans un instant, le portable au volant, suspension immédiate du permis dans 4 départements. Vous avez le portable à la main. Suspension du permis, 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.